Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. C'est la dernière émission avant les vacances, donc pour que vous puissiez tenir le coup en notre absence la semaine prochaine, on débattra ce soir de deux films avec les camarades Aubry, Clément, Juliette et Corentin ici au studio. Et donc aujourd'hui au programme, il y a The Mastermind, le nouveau film de Kelly Reichardt qui était en compétition à Cannes, et La Grazia, le nouveau film de Paolo Sorrentino qui était pour sa part en compétition à Venise. The Mastermind, donc, est un film de la réalisatrice américaine Kelly Reichardt, très apprécié et suivi par la cinéphilie globale, mondiale, dont les histoires sont très souvent ancrées dans son état de l'Oregon, qu'il s'agisse de drames en costume ou de fiction du contemporain, depuis son premier River of Grass jusqu'à un récent First Cow et puis le dernier, donc Showing Up. Si First Cow, cet avant-dernier film, nous emmenait dans les années 1820, The Mastermind se passe quant à lui dans les années 70, en 1970, si on en croit un sticker sur la voiture du protagoniste, avec un effort de reconstitution assez époustouflant et dont on devra probablement reparler. Le maître-esprit du titre, c'est James J.B. Mooney, incarné par le décidément très tendance et à juste titre Josh O'Connor, qu'on ne présente plus, et qui là donc joue un père de famille au chômage dans une petite ville du Massachusetts, Framingham. Le film commence alors que JB se trouve dans le musée municipal en train de faire, en fait, on ne se rend pas tout de suite compte, des repérages pour préparer le cambriolage de quatre très belles toiles abstraites du peintre américain Arthur Dove. On préjuge que, au moins autant que sa précarité d'ailleurs relative, c'est son quotidien, passé seul chez lui à l'école et que sa femme est au travail, son quotidien ponctué de dîners réguliers chez ses parents, que l'on sent plutôt conservateur, c'est son quotidien, donc, qui a dû lui peser suffisamment pour préparer ce coup qui ne se passe pas bien, évidemment, ou en tout cas pas aussi bien que prévu. À son corps défendant, mais sans non plus s'en outrer, JB se retrouve donc en cavale, et le film, sur sa deuxième partie, quitte les espaces où il avait pris racine dans sa première partie pour se muer en un long voyage qui semble ne jamais devoir prendre fin. Tout cela, enfin, se passe sur fond de contestation étudiante de la guerre du Vietnam, signalée par des affiches, des pancartes, des émissions télé ou encore des programmes radio. Voilà, en somme, ce que je dirais du Mastermind pour le résumer, soit un paragraphe bien moins long que les intrigues détaillées que j'ai coutume de rédiger pour cette émission, et en même temps, difficile d'en dire plus sans gâcher les quelques rebondissements, et c'est un grand mot du film, et difficile de faire plus court tant le film est succinct dans son intrigue, en dépit du fait qu'il dure 1h50. Reichardt laisse plus simplement le temps à son personnage de fuir comme il se promène, et abandonne en fait son intrigue pour plutôt donner dans la « vibe », ce mot anglais intraduisible mais qui, me semble-t-il, désigne plutôt bien ce film. Oui, en fait, difficile de le résumer tant il s'écoule comme un flux de situations qu'il n'est pas vraiment possible de singulariser les unes des autres sans que cela ne devienne fastidieux. C'est du reste la principale réussite du film que sa narration fluide, portée par un acteur dont le charisme sauve et nous intéresse à un personnage autrement assez peu sympathique, réussite redoublée par une mise en scène d'une grande beauté et d'une grande précision derrière sa fausse désinvolture. Alors, The Mastermind est un film qui m'a beaucoup plu, sans doute est-il mineur et ne m'a-t-il pas non plus particulièrement marqué, mais à y repenser en préparant cette introduction, j'y trouve plusieurs scènes qui restent, à commencer par la première et par la dernière, et plusieurs points assez puissants, parmi lesquels sans doute, c'est là-dessus que je terminerai mon introduction, l'éloge de la paresse, ou plus exactement de l'oisiveté que l'on trouve dans le personnage de JB. On découvre assez tard dans le film le parcours du personnage, on devine plus ou moins comment ses études notamment se sont terminées, mais il faut plus largement signaler que c'est un homme qui se refuse catégoriquement à rentrer dans une logique capitaliste productiviste surtout. Discrètement et sur le mode de l'indolence, le comportement de JB vise à court-circuiter les flux financiers habituels en demandant de l'argent à sa mère ou donc en dérobant ses toiles et à refuser le travail et la production à tout prix. Anticapitaliste nonchalant, JB se place dans une logique artistique dont la première scène donne la clé. Sa visite du musée est aussi bien entre aussi bien dans une démarche de contemplation des œuvres que de préparation d'un cambriolage. Il n'a même pas le temps de s'immiscer vraiment dans le marché souterrain de l'art pour revendre ses tableaux, et on peut supposer en réalité qu'il n'est peut-être même pas certain de savoir comment les écouler. En bref, il y a dans ce personnage une revendication à paresser, à se laisser porter par les événements, une revendication d'une classe moyenne assez précarisée contre des possédants invisibles dans le film, mais pas moins sensibles dans la lignée du texte de Casimir Malevitch, la paresse comme vérité effective de l'homme. Seulement, et c'est là l'intelligence de la réalisatrice, le film n'adhère pas intégralement à cette esthète qui refuse de se mêler de politique. En ne généralisant pas le gros plan, pas plus qu'elle ne s'éloigne très longtemps de lui, Reichardt filme son personnage avec une certaine tendresse, mais aussi avec un certain recul, à l'image de l'ironie de ce titre, The Mastermind, quand clairement son apathie empêche JB d'être pleinement un génie du crime. Il ne rêve lui dit un personnage vers le milieu du film, et ne réussit donc pas à s'extraire du monde dans une utopie d'amateur d'art, rattrapé par le manque d'argent, et donc par la politique. Il me semble donc que le mot de finesse soit le plus approprié pour parler de ce film, très riche à mon sens, mais dont je vais vous laisser parler à votre tour. Aubry, à Cannes, tu avais déclaré à ce micro de Transistor que, je te cite, tu ne pouvais pas t'empêcher de penser que le film n'avait pas tant que ça de choses à raconter, fin de citation. Maintiens-tu tes dires ou est-ce que cette projection plus de 8 mois plus tard t'a un peu plus convaincu?
Alors, je maintiens, mais je nuance. dans le sens où, comment dire, ce qui est sûr, c'est que le film avait pâti il y a 8 mois d'être placé en dernière ou alors dans les dernières positions chronologiques, j'entends, des projections de la compétition au festival de Cannes.
Donc si la programme de Cannes nous entend.
Voilà, Titi, on te parle encore. Donne-nous les accrèdes. Non, plus concrètement, en gros, ça veut dire que le film venait au bout de 15 jours et pour nous 10 jours de festival. En somme, on était un peu épuisés et en fait, un film comme celui-là, c'est une des pires positions qu'on peut lui donner dans une programmation surtout très intense comme celle de Cannes. Donc, c'est clair que ça avait joué et là, le revoir, on va dire, avec le recul, l'esprit frais, etc., ça a servi parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal rehaussé mon opinion sur le film. Je trouve que c'est très 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 bien fait, très intéressant à plein d'égards sur lesquels on reviendra. Pour autant, comme je l'ai dit, je maintiens un peu ce que je disais, c'est-à-dire que je pense que je comprends pas ce que les gens trouvent d'absolument transcendant ou d'absolument passionnant à propos de ce film et de ce qu'il aurait à dire, en fait, soit de notre époque, soit des années 70 dans lesquelles il se déroule. On y reviendra parce que ça a beaucoup d'importance. Pour le dire autrement, je trouve que c'est un anti-film de braquage extrêmement bien fait, excellemment bien fait, de la même manière qu'on pourrait faire un excellent film de braquage, mais qu'en fait, ça va pas beaucoup plus loin. Je trouve que j'ai l'impression que le film dit des choses intéressantes, mais aussi des choses assez banales, en fait, somme toute. Donc, je suis toujours un peu réservé sur ce point-là. Surtout qu'en fait, le film ne me transporte pas, ne serait-ce qu'émotionnellement. En fait, je trouve ça très très beau, je trouve ça vraiment extrêmement bien fait, hein, je le redis. C'est vraiment un très très bon film. Mais voilà, il y a ce double problème de ça me transporte pas. Et en fait, je comprends pas ce que ça raconte, et par extension, tout le pataquès que peut en faire la critique en ce moment, même si, effectivement, oui, ça reste très très bien.
Merci Aubry. Est-ce que Juliette, toi, tu as été transportée, pour reprendre les termes d'Aubry, et où est-ce que tu as compris ce que le film te racontait ?
Alors non et non, mais par contre j'ai passé un excellent moment, mais parce que je mets pas du tout mon curseur sur ça. C'est vrai qu'en termes d'émotion, c'est pas un transport monumental, parce que je trouve que on reste, mais tu l'as, une distance critique avec le personnage, et c'est un peu goofy aussi. Enfin, il y a une sorte de musique jazz répétitive qui fait que on prend quand même un peu la situation en dérision et qu'on n'est pas juste dans une sorte de pathos de cette situation qui se dégrade ou quoi que ce soit. Et au-delà de ça, moi c'est vrai que j'ai pas du tout j'ai pas du tout cherché à analyser ça d'un point de vue de qu'est-ce que ça me raconte sur l'époque, etc. Moi j'ai surtout passé un très bon moment. Je trouvais que c'était très beau. Déjà, l'esthétique, elle était top, avec une colorimétrie vraiment enfin, tellement douce pour les yeux, et même des très belles lumières, j'ai trouvé pendant tout le film, avec qui créait des super beaux reliefs. Enfin, voilà, c'était vraiment un plaisir pour l'œil, et je parle même pas encore de Josh O'Connor, parce que quel poulet, vraiment c'était trop bien de le voir jouer. C'est drôle aussi de mettre ce film en parallèle avec La Chimère, je trouve, parce qu'en termes de pattern de Josh O'Connor qui vole des œuvres d'art, j'arrivais pas à me sortir cette idée de la tête au début, enfin surtout en l'espace de peu de temps. Enfin, La Chimère, je crois que c'est 2024, enfin, comme ça, enfin bref, voilà, c'est vraiment son rôle. Et bref, enfin, voilà, j'ai adoré l'atmosphère du film. Je trouvais qu'il y avait des zones d'ombre dans l'intrigue qui étaient assez marrantes. C'est vrai qu'on sait pas comment il veut vraiment se débarrasser de ces tableaux, même si on a des pistes à certains moments. Je trouve qu'il y a même des zones d'ombre dans les personnages qu'on comprend pas vraiment. Enfin, on n'a pas la trajectoire complète du personnage principal. Moi, j'ai eu du mal aussi à cerner totalement la réaction de sa femme. Enfin, bref, et même à la cerner de manière générale. Mais je trouve que c'est pas du tout des choses qui posent problème, parce que je trouve qu'on est dans un élan qui est hyper agréable. On suit les pérégrinations de ce personnage, et rapidement, en fait, ça ressemble plutôt à des sortes de déambulations assez lentes dans l'Amérique profonde. Et dans les années 70, et je sais pas si vous avez vu, mais sur la Cinéthèque, il y a un hommage justement à la réalisatrice, et ils ont programmé Vanda qui est Askip, un de ses films préférés, de Barbara Loden, qui se passe justement dans les années, bah, qui est un film de 70, je crois, et qui reprend un peu cette idée, enfin, qui reprend pas, non, qui présente, c'est de braquage un peu, qui tombe un peu à l'eau, voilà, tout ça dans l'Amérique profonde. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas interprété quelque chose de l'époque, j'étais juste en mode, peut-être il y a une sorte de fascination de cette époque-là, inspirée aussi cinématographiquement parlant, pardon. Bref, donc tout ça pour dire, moi je trouve ça très marrant, très divertissant. Ça m'a pas du tout déçu, et j'ai passé un très bon moment. Je sais pas à quel point ça va marquer toute ma vie, mais c'était super.
Merci beaucoup, Juliette. Est-ce que toi, Corentin, tu dirais que tu as été marqué toute ta vie, ou que ça a été super, ou les deux?
Oui, c'est un excellent film. Un excellent film de ce début d'année. Maintenant, moi, je suis vraiment très content d'avoir vu ce film. C'est, comme tu l'as dit, en fait, en sortant de la salle, c'est vraiment le haut du panier de Cannes 2025. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été primé. Je te vois remuer la tête, Aubry, ne t'inquiète pas. Tu es dans mon champ de vision, je ne peux pas te rater. Et le film, en fait...
Féroce, t'en dirais.
Et... En fait, justement, vu qu'on va parler de la Grazia tout à l'heure, moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'il y a un rapport, en fait, avec le film La Grazia.
Je suis bien d'accord. Tu me voles mon introduction de la
je
suite,
suis
mais...
absolument
mais continue,
désolé.
Vas-y.
On ne sait absolument pas, enfin, on ne sait pas, concerté, merci, les mots me sortent de la bouche. Voilà, il est 20h, non, il n'est même pas 20h. Bref, donc, ce n'est pas sans rapport, en fait, avec La Grazia, dans ce qu'il raconte d'un déphasage, je dirais, à l'époque. Il y a quelque chose de désuet dans le film de Kelly Reichardt, par rapport déjà à la photographie, son grain, Richard embrasse, sans gâcher son plaisir, je pense, par là même, une imagerie du film des années 70, de sa texture même, enfin, c'est vraiment très agréable, hein, c'est vraiment très très beau, ça me fait penser à des photographies, mais elle l'a dit elle-même en interview, d'Eggleston notamment, c'est vraiment très beau, hein, juste à l'œil. Et puis il y a le thème, le film de braquage forcément, qu'on retrouve énormément dans les années 70, la musique jazz enfin omniprésente de Rob Mazurek, qui est, bah, moi je trouve absolument splendide, et j'aimerais d'ailleurs me procurer un album des musiques du film, parce que c'est vraiment génial. Et donc, Richard recrée une sorte d'époque, une atmosphère, et finit par intelligemment en détourner le rythme, comme une improvisation justement de jazz, à la différence qu'il n'y a pas de fluctuation brusque du rythme, puisque le rythme finit par s'arrêter tout bonnement, parce qu'en somme, le braquage, il est expédié, hein, il ne constitue pas l'acmé du film, mais il faut insister sur le fait que tout le processus de braquage, son avant, son pendant et son après, est anti-spectaculaire au possible. Et la fuite qui s'ensuit est marquée par son absence, en fait, de péripéties. Il n'y a pas forcément, finalement, d'après, en fait, pour de tels personnages. Et non, je ne parle pas du mouvement politique de Clémentine Autain. Et donc, ce genre de personnages ne peuvent pas voir l'après. D'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi Josh O'Connor tableau. Ce ne serait même pas pour l'argent, parce que, bah, certes, il est au chômage, mais il est issu d'un milieu quand même petit bourgeois. Son père est juge. Il est passé par les beaux-arts lui-même. Au début du film, il y a une première... Il y a une première séquence au musée où il vole une sorte de soldat de plomb au musée, et on imagine après qu'il le donnera à son fils, mais il n'en est rien. Et donc, il y a une sorte de fuite du personnage à travers ce braquage, une fuite hors de l'époque. Lui qui ignore aussi consciemment et constamment les mouvements politiques, les luttes décoloniales qui travaillent les années 70, et qui finiront en fait par le rattraper dans un final que l'on pourrait certes qualifier de facile, mais qui, je trouve, fonctionne très bien.
Et qu'on ne divulgâchera pas parce qu'il est super.
Ouais, et comique en plus. Et il y a vraiment une tonalité comique qui est très bien. Aubry, tu es toujours dans mon champ de vision.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, écoute, t'as pas mal parlé du film de braquage. Je pense que c'est un peu un point sur lequel on peut revenir, en tout cas, cette qualification générique du film. Puisque l'affiche vous annonce en grandes lettres que Kelly Reichardt revisite le film de braquage. Donc vraiment, il y a une espèce de downfall des mentions sur les affiches. Là, c'est de pire en pire, ça devient de plus en plus factuel. Bref, donc là, oui, c'est factuel, elle revisite le film de braquage. Mais j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, c'est un peu inexact. Parce qu'il n'en va pas vraiment d'un film de braquage, au sens où ce n'est pas l'enjeu du film, ce n'est pas le sujet du film. L'exécution du crime lui-même prend un temps extrêmement court, et le suspense, c'est moins de savoir quand est-ce qu'il sera démasqué, puisque tout capote très vite, que quand est-ce qu'il sera attrapé. Et encore, là, la pression est minime, en fait, puisque aucune enquête n'est menée en parallèle. On ne suit pas de personnage de détective qui suivrait la piste de JB. Puisqu'on est toujours avec JB, comme tu l'as dit, Corentin, aucun personnage de flic, donc bref, ne sert de contrepoint à sa figure. Et moi, c'est ça que je trouve en fait assez fabuleux dans le film, c'est qu'il refuse catégoriquement la notion de suspense. Ça va avec en fait cette notion de flux, de fluidité que j'évoquais au début de l'émission, et que aussi, ben, Corentin, là, tu viens de dire, en comparant en fait cette... comment dire, la façon dont s'écoule le temps de façon imprévisible, à l'image des improvisations jazz de la musique de film, en fait. Et c'est d'ailleurs cette gestion du temps, elle est perturbante, et les choses peuvent aller très très vite, comme lorsque la police et le FBI débarquent chez lui. Franchement, ça arrive tout de suite, et aussi parce qu'il avait mal prévu son braquage et qu'il s'est raté. Ces choses peuvent prendre le temps de durer, comme lorsqu'il va le cacher l'étoile dans une grange, ce qu'il fait non sans difficulté, et que Reichardt semble filmer en temps réel. La séquence prend énormément de temps parce qu'il monte les quatre toiles d'une grange avec une échelle, il se ramasse, enfin bref. Et tout ça, ça prend le temps. Donc bref, tout obstacle potentiel traditionnel dans un récit de braquage, dans un récit policier, est constamment dégonflé dans sa nature problématique. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le film, c'est le refus de la téléologie du récit d'enquête. C'est-à-dire ce qui arrive, tout ce qui arrive, je trouve, est contingent, est imprévisible. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de temps qui s'écoule en s'improvisant, et bien malin, qui pourra en réalité prédire l'issue de la prochaine pérégrination ou variation de JB, vu qu'il ne se passe en soi jamais rien.
En fait, moi, je suis Aubry. D'accord et pas d'accord, parce que, enfin, d'accord déjà sur le côté, enfin, pour le coup, l'originalité de faire un film dont le scénario avance par improvisation du personnage, notamment, par rapport au canevas du film de braquage, dans le sens où, en fait, si on pouvait définir un canon du film de braquage, en tout cas un canon du film de braquage classique américain, c'est vraiment des films de rythme très musicaux, mais dans le sens, en fait, d'un rythme très précis, en fait. C'est-à-dire que c'est des actions qui arrivent au bon moment, des trucs qui s'enchaînent de façon très musicale, en fait. Enfin, un des exemples les plus, les plus évidents de ça, par exemple, ce serait Ocean's Eleven, je trouve. Très très forte, mais c'est une musique, par exemple, Ocean's Eleven, c'est une musicalité pop, en gros, ou rock. C'est pas du free jazz, quoi. Alors que Kelly Reichardt, il y a une vraie dimension d'improvisation qui est relayée par la musique, dans le sens où, je sais pas si c'est de la musique, on va dire littéralement improvisée, mais en tout cas, il y a tout.
On est jamais très loin dans le jazz.
Voilà, il y a tout un jeu de dissonance, de changement de rythme, de rupture de ton, et au fond d'imprévu qui, à la fois, qui accompagne et en même temps qui gouverne un peu à ce qui se passe en fait à l'image et narrativement. Là où je serais moins d'accord, c'est qu'en fait je trouve que en fait, à force de vouloir réduire son personnage à une forme d'improvisation, pour moi, le film devient assez prévisible, trop prévisible, dans le sens où, en fait, une fois que le personnage de JB est réduit à la fuite, ou en tout cas à une forme d'errance, Il y a une forme d'improvisation dans ses choix à lui, c'est-à-dire que ses déplacements, comme tu l'as dit, dépendent d'une forme de contingence. Est-ce qu'il a assez d'argent pour prendre le bus? Quel bus est là? Est-ce qu'il loupe tel ou tel truc? Est-ce qu'il peut loger ci ou là? En revanche, bah, il y a un truc sur lequel on reste constant, et en fait c'est là que pour le coup le rythme du film s'aplatit considérablement sur sa deuxième moitié. C'est qu'en fait juste c'est une errance par principe quoi, et pour le coup c'est une errance assez plate, et ça c'est aussi le caractère du personnage qui le veut. Et je trouve que du coup à cet endroit là en tout cas moi à ce moment là le film, on va dire, quand même cesse de m'étonner, ou en tout cas le fait plus autant qu'avant. C'est pas qu'il en devient moins intéressant, mais je trouve qu'en fait là où on pourrait avoir l'impression qu'il devient complètement improvisé à la mesure de son personnage, pour moi c'est tout le contraire, c'est-à-dire que le film à ce moment-là rentre dans un chemin extrêmement balisé qui est certes celui de l'errance, qui est par nature une forme d'improvisation, mais qui en fait, en se la dictant comme principe, rentre sur un truc très très balisé du coup.
Ouais, moi je suis pas exactement d'accord, Juliette. Je comprends totalement cette idée, mais je trouve que le film devient pas du tout prévisible pour autant, parce que j'aimais bien ton idée, Louis, de vraiment d'une relecture, mais d'un usage différent du film de braquage, parce que moi c'est comme ça que j'ai connu cette réalisatrice, et je trouve que je sais pas si vous avez vu le film Mixed Cut Off. C'est un super film, c'est un western globalement qui n'est pas un western et qui a un traitement des personnages qui est totalement différent, et que là je trouve on retrouve très bien, parce que je trouve que la manière dont est traité le personnage est hyper singulière, justement parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on est à une sorte de distance où on ne comprend pas les motivations, donc on n'est pas du coup dans le film de braquage que tu as décrit, Aubry, avec un rythme effréné où même on est centré sur l'action, etc. Du coup en théorie on est centré sur une sorte de psychologie des personnages, et pourtant on rentre pas du tout là-dedans parce qu'on reste un peu à distance, mais comme si on fixait quelqu'un dans la rue, quoi. En fait, on comprend pas exactement ce qui se passe dans sa tête, où il y a une connaissance qui commence à arriver au fur et à mesure, mais du fait qu'on fixe la même personne, et en fait, ça s'arrête un peu à là. Et le fait que ce soit, moi, je trouve très brillamment joué, dans un naturel qui est assez exceptionnel, on est étonné, je trouve, à certains moments, de certaines mimiques ou de certaines réflexions, tout ça. Enfin, on lui découvre un peu des traits, mais qui sont vraiment très légers. Je trouve que justement, ça marche très bien. Et ce qui fait que, même si oui, on rentre dans un schéma un peu plus classique d'une errance, je trouve que, en fait, ça reste toujours un peu bizarre, quoi. Genre, on sait pas vraiment où se situer par rapport à ça. La fin, évidemment, on va pas la spoiler, mais est aussi un peu étonnante de ce point de vue-là. Et donc on a juste accompagné quelqu'un de random pendant 2 heures sans être ennuyé, alors que pourtant il erre. Enfin, je trouve qu'il y a une maîtrise en fait justement du rythme. Enfin, parce qu'en vrai, 1h50 d'errance, ça peut devenir long. Je trouve que ça n'est pas du tout.
Je suis bien d'accord, j'ai pas du tout vu passer le temps personnellement.
Ouais, voilà. Qui en fait, je trouve du coup, donne un film très justement très bien ficelé dans toutes ces zones d'ombre et assez étonnant. Alors même qu'il est qu'on pourrait s'attendre, enfin je sais pas, quand on le résume comme ça on pourrait s'attendre à un sort de film contemplatif auquel on peut être habitué, enfin surtout l'Amérique profonde des années 70, enfin c'est quand même c'est bien schématique dans nos cerveaux, quoi. Et pourtant pas du tout, enfin je trouve que c'est justement une sorte de surprise continue, alors qui n'est certes pas du tout explosive, hein, mais qui est quand même très agréable pendant 1h50.
Oui, mais par rapport à la maîtrise, ouais, c'est ça qui est assez amusant dans le film, c'est-à-dire que à chaque fois on est pris par les actions assez imprévisibles de Josh O'Connor, du personnage. Voilà, on faisait l'analogie avec la musique de jazz, avec ses fluctuations, etc. Et pourtant, donc il y a un imprévu en fait du personnage, et pourtant la maîtrise de Richard dans le film, elle est totale. Enfin, je veux dire, son rapport au cadre. Tout est même le musée, qui elle l'a dit en interview, n'existe pas, elle l'a totalement reconstitué elle-même, elle a choisi, enfin disons que c'est une reconstitution totale, et donc c'est une maîtrise total, ces cadrages dans le musée, je trouve ça absolument...
Qu'elle sait mettre en espace aussi, parce qu'en réalité, on dirait vraiment que ça a été fait l'œuvre d'un muséographe, dans la composition des œuvres au mur et dans le raccrochage.
Mais oui, c'est elle qui a fait tout ça. Enfin, elle est professeure, je crois, elle a fait les Beaux-Arts et elle est actuellement professeure. Enfin, jusqu'à très récemment, elle vivait très peu de ses films en fait, et vivait principalement sur son métier de professeur, d'enseignante quoi. Et donc oui, donc bref, la maîtrise est assez bluffante de la part de Richard par rapport à son cadre. Je pense aussi à la séquence finale, je vais pas encore une fois divulguer, mais en tout cas il y a un mouvement de caméra avec un placement des différents personnages, enfin tout est dans le mouvement, un mouvement ultra fluide, et là on se dit mais enfin c'est presque cartoonesque en fait, ce final. Moi il m'a fait penser vraiment au comique de mouvement des cartoons où tout est extrêmement millimétré, où quelque chose part au loin et donc la caméra eh bien elle fait un travelling arrière, voilà, je vais pas en dire plus, et pourtant elle refuse les codes, on va dire, comme on l'a dit, les codes du braquage. Enfin là aussi je me réfère, j'ai écouté une interview ce week-end, je l'avoue, mais elle le dit que par exemple, elle refuse dans sa séquence de braquage de faire appel à un référentiel temporel, notamment, comme tu le disais, ça peut être du montage alterné, c'est-à-dire pour dire ah eh bien il se passe deux choses en même temps, comme ça on a un référentiel, on a un suspense qui monte. Non, il n'y a
même
pas de suspense.
Pas chronomètre à l'écran,
il y a pas, voilà, et elle le dit elle-même, voilà, très bien, tu préchotes ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de montre, elle ne montre pas de montre comme on pourrait le voir dans Mission Impossible, voilà. Il n'y a pas de référentiel en gros, et on a juste la séquence qui est, je trouve, extrêmement drôle, quand un braqueur menace une collégienne qui récite du Musset, quand les deux braqueurs qui ne sont pas, du coup, l'un d'eux n'est pas Josh O'Connor, donc qui sort du musée, l'un d'eux se fait attraper par le policier à l'entrée, alors que l'autre gardien dort sur son fauteuil, et que, eh bien, on a un cadre où, pour mettre le tableau à l'intérieur de la voiture, il est obligé de tourner le moulinet pour descendre la fenêtre, et ensuite on attend 30 secondes. Et ensuite, on voit l'autre, le second, qui s'est fait attraper par le policier, qui donc s'est sorti de cette situation cocasse et qui revient. Je trouve, en fait, il y a quand même un tempo, une maîtrise des temps morts, en fait, qui est extrêmement, extrêmement drôle et qui me passionne.
Et ben, puisqu'on parle de la question de la forme du film, qu'on a gentiment dévié vers ça, et c'est très juste, effectivement, c'est une forme qui est particulièrement maîtrisée. Je parlais de fausse désinvolture en début, et le film n'est que partiellement avec son personnage sur ce point-là, en tout cas. D'ailleurs, c'est Kelly Reichardt qui a monté le film aussi, ce qui n'est pas tout à fait anodin. Et on pourrait peut-être parler de la question de la reconstitution, qui, moi, personnellement, m'a bluffé et qui me fait me dire que ce film méritait autant, on va dire, que l'Agent Secret, un prix de la mise en scène.
Agent Secret Grand Prix.
Oui, voilà, ou alors Palme d'Or, si vous voulez, mais je veux dire, là, ce film-là méritait quand même d'être primé, à mon sens, au moins pour ça ou pour le prix d'interprétation, qui est aussi ce qu'a eu l'Agent Secret. Bref, la reconstitution, c'est bien sûr un effet esthétique, c'est ce que tu reprochais plus ou moins au film Aubry quand on est sorti de la salle l'autre soir, mais pourquoi pas, moi j'ai envie quand même de répondre. Le grain, l'étalonnage, le soin porté au décor, au costume et aux coiffures, il est non négligeable, mais il est appréciable, et à mon sens, il est bien moins vain que, mettons, Winter Break d'Alexander Payne, pour prendre un film récent qui s'employait aussi à ressusciter les années 70 dans leur forme. Le pastiche d'Alexander Payne, il était très aimable et je l'apprécie beaucoup, mais il savait que sa valeur était limitée à sa forme, justement. Ici, la mise en scène relativement minimaliste, sans effet de manche, elle hybride ensemble les thrillers un peu paranoïaques du nouvel Hollywood avec la patte de réalisatrice de Kelly Reichardt, dont la tentation contemplative contredit la nervosité des vrais films des années 70, et crée comme ça un peu un effet de sens. Cet effet de sens, c'est que le film, il a envie de je te vois tirer la langue, Aubry. Le film, il veut dialoguer avec cette image de l'Amérique, avec le cinéma américain, et contredire en fait cette Amérique-là avec ce personnage oisif, contraire à l'American Dream, plus Bartleby que Babbitt. Et ce film, enfin, il sait aussi tout le danger du fétichisme de cette époque où, c'est vrai, les voitures étaient plus belle et les gens très bien habillés, avec donc cette fin qu'on ne peut pas révéler, mais qui le rend bien supérieur en tant qu'œuvre d'art, à mon sens, à Winter Break. Winter Break qui préférait et qui reconnaissait être un film feel good, qui aurait effectivement pu être tourné en 72, tant dans sa mise en scène que dans l'histoire balisée, attendue qu'il racontait.
Je suis vraiment pas d'accord, je préfère Winter Break, c'est pas vrai, j'ai pas vu le film. plus sérieusement, enfin, à la fois, je comprends où tu vas avec ce rapprochement-là, et pour moi, enfin, c'est vraiment, enfin, en gros, enfin, je pense qu'on peut pas analyser le film sans prendre en compte cette parenté-là, enfin, cette inscription dans les années 70, ce rapport au cinéma des années 70 et à l'histoire des années 70 états-uniennes. Mais par contre, enfin, je trouve que c'est une erreur de dire, enfin, de réduire le film à, en gros, un contre-pied. Oui, sur
je le réduis pas qu'à ça. Je trouve que c'est une,
en fait,
une dimension intéressante.
Il prend un contre-pied intéressant sur pas mal de points, et je trouve que le principal, c'est, ça serait, en tout cas, du côté de la présence féminine dans le film, enfin, de la femme du personnage de JB. Mais par contre, tu vois, enfin, par exemple, sur le côté, en gros, tourner au ridicule ce genre de personnage, ou en fait en faire un personnage voué à l'échec, je suis pas d'accord. C'est littéralement tout le parti pris d'un pan entier du nouvel Hollywood. Alors,
j'ai pas dit que ça le ridiculisait.
Non, mais enfin, je veux dire, en gros, ce contre-pied-là, pour moi, il est complètement anachronique, parce qu'en fait, il a déjà existé dans les années 70. C'est ça que je comprends pas dans le film. C'est qu'en gros, oui, techniquement, on peut dire que le film, il s'oppose... Enfin, techniquement, c'est aux antipodes complets et sur tous les points. En soi, ça n'a rien à voir. Mais d'un film comme Le Parrain, tu vois, vraiment, il est aux antipodes complets. Par contre, en fait, si tu prends les films de Jerry Schatzberg, si tu prends L'Épouvantail, par exemple, je suis désolé, en fait, dans L'Épouvantail, c'est pas vraiment des braqueurs dans mon souvenir, mais t'as déjà ce côté personnage errant, un peu ridicule, qui savent pas trop où ils vont, qui sont un peu, enfin, qui sont pour le coup dans cette espèce d'état d'improvisation. En fait, c'est des schémas que tu retrouves pas mal à la fois dans les road movies des années 70 et dans ce qui s'apparente à des films de braquage de l'époque. Alors, Kelly Reichardt, elle actualise certains points. Mais elle propose certains contrepoints. Enfin, je l'ai dit, il y a un point de vue féminin. Vous l'avez assez justement dit dans pour le coup cette espèce de génie des cadres qu'elle a dans le film. Il y a des décadrages ou des recadrages qu'elle propose qui ont en fait leur intérêt et leur côté inédit par rapport à ce qui a déjà été proposé historiquement dans les années 70. Pour autant, je trouve en fait, et c'est là que moi je trouve qu'en fait le film raconte pas tant de choses que ça. C'est qu'en fait je comprends pas ce qu'il dit de beaucoup plus que ce que disaient déjà les films des années 70 auxquels il fait référence. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, dans la logique, la continuité, la conséquence de ça, en fait, il échappe pas à son fétichisme. Et alors, c'est aussi, je pense, revendiqué ou en tout cas assumé à un certain degré par Reichardt, dans le sens où je pense que juste aussi elle est attachée à ce cinéma-là. Mais pour moi, par exemple, le grain de la pellicule, c'est complètement un truc fétichiste, en gros, de tourner, entre guillemets, comme dans les années 70. Et y a certains motifs dans le film qui sont aussi dans cette idée-là. Et la reconstitution, tu vois, oui, elle mime les années 70, mais en fait, je pense que j'ai un problème avec le fait qu'elle situe son film dans les années 70. Je comprends pas où elle va en venir, ce qu'elle veut dire de plus qui n'aurait pas déjà été dit. Et en fait, pour moi, c'est presque un film qui aurait été plus intéressant si justement il avait été situé dans notre époque en reprenant des codes des années 70.
Moi, je suis un peu d'accord. J'entends. Avec ça, en vrai. Parce que dans le film que je citais là tout à l'heure, Vanda, un de ses films préférés, c'est vrai qu'on... c'est typiquement ce film. Je crois que c'est pile en plus de 1970. C'est typiquement ce truc... d'errance, ce contrepoint du film de braquage qui est déjà présent, et où c'est vrai, on a l'impression, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de valeur ajoutée. Enfin, moi je trouve que The Mastermind est mieux, mais voilà, peut-être que Josh O'Connor joue aussi beaucoup, donc c'est peut-être aussi ça la valeur ajoutée, et ça se tiendrait, mais c'est vrai que mais en fait, c'est pour ça aussi que je trouve ça étonnant de situer ce débat-là sur qu'est-ce que ça raconte de plus qu'un film des années 70.
Oui, parce que je trouve que c'est moins vain que Nouvelle Vague, par exemple.
Je suis assez d'accord, parce que je trouve qu'il y a, en fait... Enfin, je sais pas exactement, mais en fait, le plaisir esthétique, je trouve, est tellement là. Et en fait, même si c'est un fétichisme de cette année et une inspiration de films comme Vanda ou de ceux que t'as cités, Aubry... je trouve que ça se tient et que c'est pas nécessairement un point négatif et que même si ça n'ajoute pas plus, je sais pas en fait s'il aurait eu, comme tu dis Aubry, plus d'avantages à être situé dans la période des années 70, parce que en vrai ça reste un plaisir de voir ce genre de film et de voir ce genre d'effort esthétique et ce genre de traitement de personnage maintenant, et ça reste en fait un peu étonnant et oui, il y a un plaisir à l'écran, donc enfin je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi on le tourne comme s'il fallait l'interpréter voilà, d'une certaine manière, qu'il fallait qu'on trouve un discours derrière, alors qu'il y a une simplicité et une maîtrise justement de cette simplicité qui est quand même très valorisable.
Bah, disons que c'est déjà juste très bien, j'ai l'impression que le film n'arrête pas justement d'appeler à ça en fait, de s'inscrire dans cette continuité-là, de se référencer à ce niveau-là. Enfin, c'est l'impression que j'ai après, effectivement, je fais une fixette dessus et ça, en gros, ça concentre les problèmes que j'ai avec, mais oui.
Oui, rapidement, oui. Je pense en fait tout simplement que si ça n'avait pas été les années 70, si le film n'avait pas pris pour cadre les années 70, ça n'aurait juste pas été le même film. Et comme on a ce film-ci, avec cette atmosphère spéciale, avec, comme on l'a dit, le jazz, avec les luttes décoloniales qui sont forcément mises de côté, mais pas mises de côté par le film, justement mises de côté par le personnage, sans ça, ça n'aurait pas eu le même sens, en fait. Et on aurait tout simplement vu un autre film, un film différent. Ça aurait pu se passer dans les années 90, ça aurait pu se passer dans les années 2000, mais ça n'aurait pas été la même contextualisation et la même atmosphère. Atmosphère en fait surtout et moi c'est vraiment cette atmosphère qui m'a particulièrement touché, alors pas au niveau des sentiments parce que c'est un film comme on l'a dit qui reste très froid, mais en tout cas qui au moins m'a fait rire personnellement et comique qui m'a passionné on va dire dans sa reconstitution esthétique. Et oui voilà, je gâche pas mon plaisir à voir une de telles images quoi.
Et ben merci beaucoup, peut-être pour terminer cette discussion et puis quand même et poser des pierres comme tu l'as signalé Corentin vers La Grazia, vu que La Grazia tourne autour intégralement du personnage incarné par Tony Servillo et que ce film-ci tourne autour intégralement de celui de Josh O'Connor, on peut parler un petit peu de ce personnage-là. Et moi effectivement en sortant du film j'ai été un peu surpris par l'effacement de tous les personnages autour de lui, de sa femme à ses parents, en passant par ses enfants ou par ses amis, mais en fait ce qui me convainc, ça me convainc finalement dans la mesure où on est avec lui tout simplement, on épouse en tout cas dans la première partie de part en part son regard avant donc d'arriver à ce léger déphasage entre le point de vue de la narratrice réalisatrice et celui de son personnage. Et précisément, en fait, c'est un personnage qui est très antipathique et qui ne s'intéresse pas aux autres, à mon avis. La première séquence, qui est très réussie, elle révèle que tardivement, après coup, que l'enfant qu'on entend parler dans le musée a une femme, c'est un des deux fils de James, et que cette femme, en plus, est son épouse. Et il y a chez lui une obsession pour l'art qui est dangereuse et pénible autant qu'elle est touchante. Et moi, c'est une des forces du film que cette ambiguïté. Et je terminerai là-dessus, en tout cas, sur moi, ce que j'ai à dire du film. J'étais particulièrement marqué par le moment où, très brièvement, James accroche une toile au-dessus de son canapé, une des toiles volées et qu'il admire. Je crois que c'est vraiment la séquence que je garde du film et qui est une des séquences les plus marquantes de ce début 2026 pour moi. En fait, donc c'est cette scène-là, il décroche une toile un peu moche comme il y a dans pas mal de, enfin qu'on peut trouver un peu partout, et il accroche ça à la place. Et donc en fait, on parle très très peu, voire absolument pas d'art dans le film, mais cette courte séquence qui est muette, elle dit tout, je trouve, de son étouffement à ce personnage dans ce cadre suburbain familial et au fond de son souhait intime d'évasion, parce qu'à mon sens, il aime pas vraiment sa femme ni ses enfants. En tout cas, il ne manifeste pas d'affection pour eux. Et c'est là, en tout cas, personnellement, que la mise en scène fait tout et qu'est la force de Kelly Reichardt, parce que cette scène-là de contemplation, pourtant très personnelle, très personnalisée, très égoïste même, elle me touche mille fois plus que le délire kantien de communion universelle à la fin de Hamlet. Bref, voilà.
moi, je dirais peut-être juste un dernier mot, parce que j'ai beaucoup dit ce que j'aimais pas dans le film.
C'est vrai que.
je vais encore passer pour les grilles de service. Alors
qu'en vrai, monsieur a aimé le film. Hein.
J'ai vraiment beaucoup aimé le film, hein, je vous jure. C'est juste qu'effectivement, j'avais quelques problèmes avec. Non, du coup, pour parler de positif, même pour parler de positif sur le traitement des années 70, un truc qui est pour le coup vachement intéressant que fait Kelly Reichardt, c'est qu'elle renvoie tout, on va dire, le contexte historique dans le fond du plan, dans le fond de la narration, dans le flou même techniquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce fond politique-là, on l'a par des décadrages, par des panoramiques. Il n'est jamais avec JB, ou en tout cas dans une coprésence. Il est toujours derrière, il est toujours à côté, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Louis, c'est un personnage qui est en fait un ego pour lui-même, qui n'est pas en rapport avec les autres. Il se sert des autres parce que bah il en a besoin ou quoi.
C'est ce qu'il dit, on les appelle au téléphone pour demander de l'argent.
Voilà. Mais il est tout le temps tout seul et il suffit pour ça de voir pareil les assez chouettes scènes de repas de famille où en fait il est mutique, il fait joujou avec sa purée comme un gamin de 12 ans et en fait il attend juste de pouvoir quitter la table et de faire autre chose parce que ça l'intéresse pas. Et du coup je trouve ça ultra intéressant de montrer ce personnage là qui est au fond un personnage très solitaire mais dans le sens égotique et coupé des autres. Enfin, qui se coupe des autres, et en fait de montrer qu'il a toujours en fond derrière lui le même fond politique qui s'efforce de rejeter et de ne pas prendre en considération. C'est un personnage, en gros, si tu lui demandes, il se définit comme apolitique, ça ne le concerne pas, les problèmes du pays, il ne connaît pas, j'ai pas d'opinion là-dessus. Et ce qui est assez, pour le coup, assez chouette, c'est l'espèce de retour de bâton de ce truc-là, progressif, qui, pour le coup, en fait, est... je trouve très bien placé dans l'écosystème de cet anti-film de braquage. Et un dernier point très positif, je parlais du traitement du personnage de la femme de JB, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Si tu peux le retrouver, Louis. Mais je trouve, en fait, moi, pour le coup, si je devais donner le plan qui m'a marqué, c'est au moment où, en fait, la police a
Terry.
Débarqué. Merci, Terry. La police a débarqué chez eux, donc sa femme, en fait, comprend qu'il a braqué un truc et que, enfin, en gros, elle est en train de se casser, de faire la valise, etc. Elle est furieuse. Tout est déjà cassé, en fait, entre les deux. Et lui, il retourne dans la chambre, essayer de la rassurer. Et là, on a un panoramique qui part de Terry et qui va. Qui ensuite se déplace vers. Le lit qui est défait, la table de nuit qui est sans dessus dessous, la lampe qui est penchée et qui ensuite arrive jusqu'à la fenêtre où Terry se tient en contre-jour, et en fait elle est quasiment une silhouette, enfin une ombre en fait, parce qu'elle est en contre-jour justement. Et en fait je trouve ce plan magnifique et assez fascinant parce qu'il dit tout le film dans une toute petite séquence muette en plus, ou alors il y a peut-être James qui parle vite fait, mais voilà. Bref, en fait, ça, je pense beaucoup beaucoup bien de ce film du coup quand même.
Eh ben merci beaucoup. C'est tout pour le Mastermind de Kelly Reichardt. Et on va passer à présent au deuxième film de la.